Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Mon prochain invité est né à Donetsk, en Ukraine, habite Montréal depuis 2004. Il est pianiste et devant la guerre qui détruit son pays d'origine, ben, Seri Salov se sent complètement impuissant, désemparé, fâché, et il a choisi d'utiliser son art pour exprimer son soutien à l'Ukraine et dénoncer l'invasion par la Russie. Chaque samedi, il s'installe devant, avec son clavier, devant le consulat de la Russie à Montréal pour en jouer. Et c'est Seri qu'on a vu samedi dernier au Centre Bell. C'est lui, avant le match, qui jouait avec d'autres musiciens. Seri Salov, salut!
Bonjour monsieur, bonjour tout le monde.
D'abord, merci de venir à l'émission. D'abord, écoutez, comment allez-vous?
C'est une question qui coïncide avec l'application sur mon téléphone qui annonce l'alerte aérienne parce que je l'ai installée en complicité avec mes compatriotes ukrainiens. Donc je reçois pile au moment où vous me demandez comment je vais, je reçois l'alerte par téléphone, par l'application mobile de téléphone. Kiev est sous le raid aérien. Alors, ça va très, très mal. La question, ça, c'est la réponse traditionnelle depuis 15 jours. Ça va très, très mal.
Vous avez des proches qui sont encore là-bas, Seri, hein?
J'ai des proches qui sont encore là-bas. Heureusement pour moi, ma famille immédiate est à Montréal et ma famille plus lointaine sont à Donetsk. Et bizarrement, Donetsk, qui était le théâtre principal des hostilités en 2014, et reste l'endroit des plus calmes pour l'instant parce que c'est l'Ukraine, le cœur d'Ukraine représenté par Kiev qui est embrasé surtout. Donc les gens de Donetsk sont d'un côté plus habitués à la guerre et puis la guerre s'est un peu figée dans le conflit gelé, mais toutes sortes d'histoires peuvent arriver et ça peut se répandre vers la région de Donetsk facilement, c'est sûr.
Seri, avant que la Russie n'agresse l'Ukraine, là, on avait parlé à des gens là-bas, des correspondants, qui nous racontaient qu'il y avait une sorte je vais utiliser le mot légèreté en Ukraine. Les gens n'y croyaient pas à l'invasion. Est-ce que vous étiez de ceux-là?
Oui. Franchement, je faisais aussi partie de ces gens-là parce qu'on pensait tous que Poutine faisait juste une parade de force et qu'il n'aurait pas touché à son propre peuple parce que, savez-vous, ce qui est atroce, c'est que lui qui prétend de libérer l'Ukraine des nazis qui sont surtout dans l'ouest d'Ukraine, il s'est attaqué aux villes les plus russophones, les villes qu'il considérait vraiment l'apanage de l'Empire russe, de ce qu'il appelait le monde russe, le nom qu'il utilise, Ruski Mir, ça veut dire d'un côté le monde russe et de l'autre côté la paix russe, parce que le mot Mir, c'est la paix et le monde ensemble. C'est l'équivalent un peu c'est devenu l'équivalent du Troisième Reich allemand. Le Reich de Poutine a été précédé par le Reich de l'Empire des Tsars et par la suite l'Empire de l'Union soviétique. Donc, même au niveau de numérique, c'est le Troisième Empire russe qui est maintenant en train d'anéantir les... Hier, il y avait une église orthodoxe du Patriarchat de Moscou qui était bombardée en Ukraine. Donc, Slaves contre les Slaves, c'est pire que le nazisme pour moi. Parce qu'il n'y a même pas la ségrégation raciale. C'est juste vraiment, vraiment... S'ils considèrent nous autres, les Ukrainiens, comme son peuple frère ou même son propre partie intégrante de son propre peuple, alors c'est l'autonazisme, l'autodestruction. Et ça va finir évidemment par la destruction et de l'État russe et de la nation russe.
Seri, racontez aux gens qui nous écoutent ce que vous faites chaque samedi.
chaque samedi depuis trois semaines, je fais ce qui a tout à l'heure de l'activisme politique, sauf que je déteste le mot et l'activisme et politique parce que mes activités sont infinitésimales et la politique n'est pour rien. Je suis là pour rencontrer du monde, des gens qui sont russes, russophones, ukrainiens, de toutes les races, de toutes les nationalités. Je suis là pour communier avec ces gens-là, pas pour protester devant le consulat. Les consuls sont partis, les diplomates sont partis, l'immeuble est vide. On est là juste pour se serrer la main, pour se regarder, pour dire des fois tacitement qu'on n'a pas de mots pour ça. Savez-vous, c'est un peu comme après la sortie du film The Schindler's List, la liste de Schindler en Allemagne. Mm-hmm. Les gens sortaient des cinémas, on m'a raconté, les Allemands eux-mêmes qui m'ont raconté, les gens sortaient du cinéma et spontanément, sans être incités, se sont tenus les mains, ont formé des cercles géants dans les villes et ont pleuré, les gens adultes, les gens qui ne se connaissaient même pas. Ils pleuraient des événements qui se sont déroulés une cinquantaine d'années auparavant. Et là, on a le Holocauste, j'ai pas peur de prononcer ce mot grec qui signifie vraiment l'anéantissement total. L'Holocauste du peuple ukrainien par un peuple russe. Et ça se passe en direct. Ça se passe en direct. Comment est-ce qu'on peut rester devant les écrans et commenter ça sur Facebook? Alors les gens qui veulent protester, ben, protester c'est même pas un mot, qui veulent se rendre à l'endroit qui est officiellement le territoire de ce qui se nomme encore la Fédération russe, rue du Musée, l'endroit le plus honteux à Montréal, qui devrait vraiment, vraiment changer de nom en rue d'Ukraine. Et voilà, les gens qui sont peu nombreux.
Je vous interromps, Serhii, vous faites référence au fait qu'il y a beaucoup de villes dans le monde qui ont changé le nom des rues où on trouve les consulats et les ambassades russes.
Oui, Montréal devrait donner une puissante gifle à ce régime et de l'autre côté inscrire sa propre histoire parce que l'histoire de Montréal s'écrit aussi aujourd'hui en Ukraine et la communauté et russe et ukrainienne de Montréal est largement contre ces atrocités. Et donc ces traces d'histoire doivent absolument être éternisées par une rébaptisation nécessaire de ce tronçon supérieur de la rue de Musée en allée d'Ukraine ou place d'Ukraine.
Serhii Salov, je rappelle que vous êtes pianiste et je veux vous entendre, Serhii, sur il y a plusieurs artistes russes qui sont boycottés un peu partout dans le monde, qui perdent des emplois, des contrats, des chefs d'orchestre, par exemple. Et plus près de nous, à Montréal, il y a l'Orchestre symphonique de Montréal qui a décidé d'annuler une prestation d'Alexander Malofiev. C'est un jeune pianiste russe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette forme de représailles?
C'est vraiment une conversation qui va dépasser le temps alloué à cette entrevue. Mais je vous assure que le garçon en question était... et lui-même et sa famille en Russie, ils étaient un peu les otages de ce régime. La chose la plus logique serait pour ce garçon de retirer de son propre gré, parce que on ne le laisserait pas même toucher au piano. Il y aurait vraiment des cris de rage dans la salle. Je suis convaincu. Le stationnement de la salle symphonique, de la maison symphonique, serait bloqué par les activistes, par les vrais activistes, quoi, ukrainiens et non seulement ukrainiens. Il ne s'est pas retiré de son propre gré par la simple et unique raison, c'est que il est comme le soldat, comme les soldats qui fuient les champs de bataille et qui retournent en Russie sont soit anéantis encore en Ukraine par les Russes, par les bataillons qui sont derrière, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs.
Je vais vous interrompre. Pour vous, un pianiste russe comme M. Malofiev, là, qui n'est pas un combattant, pour vous, ça a la même signification symbolique qu'un soldat?
Dans le procédé, comme j'ai expliqué, il devrait retirer, pour éviter toutes sortes de polémiques, il devrait retirer de son propre gré. Mais il serait accueilli comme un traître en Union, en Russie. C'est ça, c'est ici que entre l'analogie avec des soldats. Et de l'autre côté, il est très très fortement lié à Poutine par toute une hiérarchie de pouvoir Poutine est comme Hitler. il est un grand patron des arts et de la musique spécifiquement. Bon, Poutine, il a établi une hiérarchie de pouvoir qui permet aux jeunes talents de s'épanouir, ce qui est vraiment, vraiment génial. Mais de l'autre côté, ces jeunes talents, comme Malofeyev, sont étroitement imbriqués avec Poutine. Et voilà, il n'avait aucune chance. Il ne pouvait pas se retirer de son propre gré. Maintenant, on lui a montré la porte, donc il peut retirer à Moscou sans risquer des représailles. Et comme j'ai dit à vos collègues, ses talents seront fortement sollicités en Russie pour guérir toutes ces âmes perdues qui sont dans le mutisme, tous ces gens qui boivent du thé et dont les enfants jouent pour Élise. Moi, je me suis demandé, les concerts de la musique classique en Russie, qui sont nombreux, nombreux, nombreux. Comment est-ce que les gens peuvent, 2000 gens peuvent aller dans une salle de concert, écouter Beethoven, écouter Tchaïkovski aujourd'hui? Je les imagine en sanglots, mais non, rien de tel. Les gens qui sont sensibles à la musique classique, ils vont comme si rien n'était. Oui, les forces russes ont une opération spéciale à faucher les nazis ukrainiens. C'est ce que chaque amateurs de la musique classique ou les gens qui fréquentent les théâtres, les intellectuels sont hypnotisés par ce cauchemar propagandiste.
Merci beaucoup, Sari. On va se laisser sur votre interprétation de Chopin, balade numéro 4. Sari Salov, je rappelle que vous êtes pianiste. On peut vous entendre à partir de cette semaine, 30 minutes par jour, sous la marquise de l'hôtel Ritz. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci, M. Lagacé.
Au revoir, Sari. C'était le pianiste Sari Salov, et quelqu'un m'écrit dans la messagerie parce que M. Salov a parlé d'un holocauste contre les Ukrainiens, et il est ukrainien d'origine. Quelqu'un m'écrit, voyons donc l'holocauste, on peut pas comparer. Écoutez, je n'ai pas commencé à faire du fact-checking avec quelqu'un qui a peur pour ses proches là-bas. Après ça, est-ce que c'est l'holocauste? Je pense que l'holocauste, c'est l'horreur absolue. Maintenant, quelqu'un qui est dans la douleur comme ça, dans une situation semblable, je pense qu'il a droit aussi à sa colère. On peut comprendre ça.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
À l'heure où l'essence est à environ, on doit être rendu pas loin de 2 $ le litre. En tout cas, il n'y a pas de plafond, semble-t-il, à l'inflation pour l'essence. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, est-ce que je change de véhicule? Est-ce que je vais me prendre un véhicule électrique? Et le gouvernement du Québec, on le sait, là, veut de plus en plus d'électrique. On veut interdire la vente de véhicules à essence dès 2035. Pour Équitaire, le groupe écologique, ben ce n'est pas suffisant. On voudrait voir cette date-là à 2030. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'il y a suffisamment de véhicules électriques chez les constructeurs automobiles? On en parle avec Benoît Charrette, non pas ministre de l'Environnement, mais notre ami, le rédacteur en chef de l'annuel de l'automobile. Salut, Benoît.
Salut, Patrick.
Écoute, Équitaire qui voudrait que ce soit 2030 et 2030 et non pas 2035 l'interdiction des véhicules à essence. Est-ce que c'est réaliste d'un point de vue de marché?
Si on parle en ce moment, là, non. Tout simplement parce que nos lois ne sont pas aussi sévères qu'en Europe. Et les véhicules électriques disponibles en ce moment se vendent beaucoup plus en Europe que chez nous. Parce que chez nous, on est encore assez permissif au niveau des réglementations. Donc, il faudrait d'une part que le gouvernement resserre la vis si on veut vendre plus de véhicules. Il faudrait prendre des actions pour que acheter un véhicule à essence devienne pratiquement une impossibilité, comme l'a fait la Norvège. Tu sais, on cite souvent la Norvège en exemple, Mais je ne sais pas si les gens aimeraient ça ici, acheter une voiture dans les conditions pour lesquelles on l'achète en Norvège. Tu sais, en Norvège, il y a une taxe au départ de 25 %. On est à 15 % ici. On parle de 25. Ça veut dire que pour une voiture de 34-35 000 $, là, il y a presque 9 000 $ de taxes. Après ça, il y a une taxe au poids pour les véhicules. Donc, une petite véhicule, on parle d'une Golf, là, tout le monde connaît la Golf, il y a un autre 9 000 $ de taxes au poids, puis là, c'est pas un gros véhicule, la Golf. Et ensuite, le carburant est à 2,74 le litre en Norvège. Fait que les gens qui crient à 1,85 ici, là, pensez à 2,74 pendant 5 minutes. Et toutes les taxes qu'on a pour les véhicules à essence n'existe pas pour les véhicules électriques. Donc, on enlève le 25 % de taxe qu'on charge, on enlève la taxe au poids, ce qui fait qu'acheter un véhicule à essence coûte plus cher au départ qu'un véhicule électrique, et par-dessus ça, on a l'essence à mettre dedans. Alors, à moins d'être riche, on peut pratiquement pas s'acheter un véhicule à essence. Donc, oui, il s'en va énormément parce que les gens ont presque pas le choix. Est-ce qu'on voudrait être dans des conditions comme ça ici? Pas sûr.
Faut dire cependant, Benoît, que la Norvège est un des pays où les habitants, disons que le revenu par habitant est parmi les plus élevés dans le monde, sont habitués à être taxés aussi, là.
Voilà, ou d'une part, et d'autre part, les Norvégiens ont pris l'argent du pétrole et l'ont réinvesti dans l'électrique. Parce qu'on a donné des subventions, on a donné beaucoup de gratuité aux propriétaires de véhicules électriques, évidemment, qui est subventionné par l'État. Ici, ben, ça va bien. Là, le problème qu'on a en ce moment, c'est la disponibilité. Si vous voulez un véhicule électrique en ce moment et que votre nom n'est pas déjà sur une liste, vous avez entre 12 et 18 mois d'attente. Donc, on a beau vouloir fixer des objectifs pour 2030, pour le moment, on ne progresse pas ou très peu parce qu'il n'y a pas de disponibilité des modèles électriques. Et ça, c'est un problème.
Donc là, si je comprends bien ce que tu me dis, Benoît, les constructeurs envoient des véhicules électriques en Europe, regardent leur stock, et les envoient dans les juridictions où il y a des règlements très, très forts qui incitent à acheter électrique.
Voilà, exactement.
OK, ben donc, au Québec, si on faisait ça, je veux dire, le marché s'organiserait pour nous en envoyer.
Oui, absolument, absolument. Si on faisait ça une force de loi, oui. Sauf que là, évidemment, en ce moment, c'est un contexte particulier parce que les constructeurs arrivent même pas à produire le nombre de véhicules qu'on voudrait. Bon, on l'a dit maintes et maintes fois, pandémie, chaîne d'approvisionnement, puces électroniques, puis la guerre en Ukraine par-dessus ça, parce qu'il faut pas oublier que la guerre en Ukraine a fait fermer une bonne partie des usines en Europe, partiellement ou totalement, parce qu'on manque de pièces. Donc, il faudra d'abord passer par-dessus tout ça avant de retrouver une certaine normalité. Puis c'est pas parce que tout ça va finir que le lendemain, on va reprendre un rythme. Les experts s'accordent à dire que ça va prendre un an, même après la fin de tout ça, à retrouver là un rythme, les travailleurs, les gens, parce que il y a aussi en automobile comme ailleurs une pénurie de main-d'œuvre et on manque de gens pour faire fonctionner les usines à plein régime. Donc, pour le moment, malgré toute la bonne volonté des gouvernements, il y a un empêchement majeur dans la production de véhicules qui fait qu'on rencontrera probablement pas les objectifs. Et si on recule ça à 2030, ça va être encore pire.
Benoît, je suis assez vieux pour me souvenir là, que le choc pétrolier des années 70, ça avait poussé le marché à s'adapter. On était passé de gros véhicules à de petits véhicules. Est-ce qu'on peut penser que l'essence à quasiment 2 $ et bientôt peut-être plus que 2, ça va forcer le marché à changer son offre d'automobile?
C'est indéniable. La seule différence qu'il y a avec le choc pétrolier, c'est qu'on avait déjà amorcé le virage vers l'électrique, alors que le choc pétrolier a été une surprise pour tout le monde. Rappelle-toi les modèles à la va-vite qu'on a fabriqués du côté des fabricants, des constructeurs américains avec les Pinto, Bobcat, Vega.
Il y en a qui explosaient d'ailleurs.
La Pinto était, on l'appelait le barbecue sur roues. C'est drôle puis c'est pas drôle en même temps, mais c'était un fait. Ça a été le plus gros rappel automobile de l'époque quand Ford a finalement baissé pavillon et décidé de payer tout le monde. Mais la différence, c'est que là, on est déjà dans une transition électrique. Moi, je pense que le fait que le pétrole grimpe en ce moment, si ça se maintient, parce que les prix ont déjà baissé, parce qu'il y a un certain nombre de pays producteurs de pétrole qui ont décidé d'augmenter la cadence de production pour essayer de faire baisser le prix du brut. Mmh. Et on est à une tendance vers le haut. Donc ça, ça va immanquablement accélérer le facteur de production de véhicules électriques et le tournant, on l'a vu chez plusieurs constructeurs, est pris et on l'accélère en plus.
Mais Benoît, quand je te posais la question sur disons, un changement dans l'offre, je pensais pas tant à l'électrique que je regarde le parc de véhicules là sur les routes. Il n'y a plus grand voiture. On est dans les VUS, dans les VUS petits, moyens ou gros. Moi, j'avais un Honda Civic à une époque. Il n'y a pas longtemps, j'avais une Rabbit. Il me semble qu'il n'y en a plus.
C'est pas dur. Là, évidemment, les budgets qu'exige la transition vers des véhicules électriques est énorme.
Oui.
Tous les modèles qui ne sont pas assez payants sont retirés de la route, point à la ligne. Donc, si tu es une petite voiture et que ma marge de profit à la vente est de 3-4%, pas assez payant, on enlève ça. C'est pas parce que ça se vend pas, c'est parce que pour les compagnies, c'est pas payant. Et là, comme on est en amour avec les VUS et que le profit par modèle vendu est beaucoup plus élevé, ben c'est ça qu'on vend. C'est pas compliqué. Alors, c'est malheureux parce que moi-même, je suis amateur de voitures, pas de VUS, et c'est de plus en plus difficile de trouver quelque chose d'intéressant à un prix raisonnable sur la route.
Le prix de l'essence, comment ça a un impact sur la préparation de ton annuel de l'automobile, Benoît?
Ben écoute, faire un essai routier, je te cacherai pas que je mets 120-130 piastres d'essence chaque semaine régulièrement depuis déjà plusieurs semaines. Donc ça a un impact, mais c'est pas le plus gros impact. L'annuel de l'automobile, notre énorme impact cette année, c'est le prix du papier. Ça l'a augmenté de façon exponentielle. En fait, c'est la première année que mon imprimeur ne peut même pas me garantir un prix. Il m'a fait un estimé que j'ai accepté, mais j'ai aussi accepté d'avoir une mauvaise surprise avec un prix qui va augmenter d'ici à ce qu'on imprime à la fin de l'été, parce qu'il dit j'ai eu 3 augmentations de prix de papier en 2021, je m'attends d'en avoir 2-3 autres en 2022, et lui, ben l'imprimeur, il passe la facture au client qui est moi. Alors, le gros coût cette année, ça va être le papier. L'essence, évidemment, on calcule ça dans nos dépenses. Mais tu sais, avant, on faisait des essais routiers. Moi, j'ai été longtemps à payer une centaine de dollars pour faire un essai routier un petit peu partout dans les journaux. Pis ça. Si je fais ça pour ce prix-là aujourd'hui, je perds de l'argent. Parce que ça m'a coûté plus cher que ça en essence, juste pour faire l'essai. Donc, tu sais, quand on dit tout coûte plus cher, là, ben c'est un bel exemple.
Mais tu m'étonnes sur le prix du papier. Écoute, je devrais pas être étonné, mais même ça touche même ça pour les livres.
Ah oui, parce que bon, moi, qu'est-ce que tu veux, c'est un livre papier et c'est du papier de bonne qualité qu'on prend. Et il y en a une grande quantité parce qu'on imprime beaucoup de livres. Et ceux qui font des livres cette année, là, ont tout cette mauvaise surprise-là. Là. C'est une augmentation importante. Là. On parle pas de quelques pourcentages. Là. Moi, c'est du 15-18% d'augmentation par rapport à l'an dernier. Là. Donc, c'est des grosses sommes d'argent.
Hey, bonne chance avec ça. On va se reparler très bientôt, Benoît. Merci.
Merci.
Salut, à la prochaine. Benoît Charrette, qui est le rédacteur en chef de l'annuel de l'automobile. Mais MC, t'es une des seules personnes que je connaisse, puis Catherine aussi, qui avait des voitures qui ressemblent à des voitures. Des fois, je suis sur la route, je regarde autour de moi, il y a juste des VUS.
Oui, je sais, c'est vraiment la grande, grande mode.
Ils n'en font plus.
Non, mais je suis particulièrement étonnée, moi aussi. Là, je suis allée mettre de l'essence ce week-end.
Oui.
J'étais une petite voiture parmi de gros VUS.
Ils n'en font plus, puis même les hybrides, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont grossi les véhicules. Et ça consomme autant que mon auto. Moi, quand je parle à du monde, c'est juste que tu sais, j'ai un ami qui a un Jeep hybride. Ça coûte quand même deux fois plus cher de gaz que moi, qui a un char qui est 6 litres au 100.
Qu'est-ce qui est arrivé avec ton auto? Tu t'étais fait emboutir par un Français sur le plateau.
Ben disons que j'ai l'air de la sœur volante sur quatre roues. Il y a des morceaux. Il y a des morceaux un peu partout qui font que cling, que clown.
Des morceaux sur le side.
Ouais, tout tient. Mais tu sais, je magasine des autos, mais il n'y en a plus d'auto. Fait que je vais l'étirer. Je vais mettre du duct tape tout le tour, probablement. Je vais te faire l'été avec. Mais non, je sais là, que j'ai l'air d'un tout croche, mais j'assume.
On t'aime comme ça. Un article inquiétant et vraiment très intéressant de Vincent Larouche dans la presse ce matin. Question d'un espion potentiel à l'Agence spatiale canadienne, un monsieur résident de Brossard, citoyen canadien, Wanping Zheng, qui aurait fait de l'espionnage au profit de la Chine. Ce qui est intéressant et inquiétant, c'est que le Service canadien de renseignement et de sécurité a averti l'Agence spatiale canadienne de se méfier de cet employé-là. Et semble-t-il que l'Agence spatiale n'a pas fait grand-chose. Michel Junot-Katuya a été directeur de la zone Asie-Pacifique du service du SCRS. Il est au bout du fil. Salut, Michel.
Salut, Patrick.
As-tu sursauté en lisant ça ce matin?
Oui et non. Oui, dans la mesure où, on en attrape un autre, mais non, dans la mesure où, malheureusement, c'est l'histoire qui se répète. On l'a vu à maintes et maintes reprises. Je l'ai vécu avec Nortel. On l'a vécu avec d'autres entreprises. On a un grave problème au Canada. À l'heure actuelle, le gouvernement canadien, toutes couleurs confondues, là, pas simplement celui qui est en poste à l'heure actuelle, n'ont jamais pris le temps de sensibiliser nos grandes entreprises, de sensibiliser nos ministères. Et les personnes qui sont responsables de la sécurité pour divers ministères, ben c'est pas toujours des spécialistes de la sécurité qui sont nommés là. Des fois, c'est un poste tablette où on met quelqu'un là temporairement parce qu'on sait pas où la placer. Et c'est pas vraiment pris au sérieux. Et dans cette histoire, par-dessus le marché, si c'est pas suffisant, encore une fois, l'histoire qui se répète, la GRC n'a été informée que presque 3 ans plus tard, en septembre. On découvre la première visite du SCRS à l'Agence spatiale, c'est en septembre 2015. Et ce n'est qu'en septembre 2019, que la GRC va être mise au dossier pour pouvoir enquêter, éventuellement peut-être procéder à des accusations. Et donc, on voit encore une histoire qui se répète avec celle de Jeffrey Delisle, qui était un officier de la marine canadienne qui a vendu des secrets à la Russie. Il a été arrêté en 2013. Puis il a écopé de 20 ans de prison, mais parce qu'il a fait un deal avec eux autres. À quelque part, c'est ça qui est notre problème. On est mal équipé, on ne se prend pas au sérieux et on n'a même pas un cadre législatif adéquat pour que les policiers puissent enquêter et mettre des accusations ou déposer des accusations appropriées.
Michel, t'as évoqué l'histoire de Nortel. Si je me souviens bien, là, c'est que t'avais alerté là-dessus d'ailleurs. Là. Nortel a été vampirisé par Huawei, dans le fond.
Littéralement. Et nous, on s'est aperçu justement de l'arrivée de Huawei à la fin des années 90, début 2000. On a fait des avertissements, on a donné des avertissements à Nortel. Ça a complètement passé dans le beurre. Un peu plus tard, on a fait des avertissements évidemment au gouvernement. J'étais plus maintenant au SCRS à l'époque, mais je sais que les gens du SCRS ont avisé. Monsieur Harper a complètement ignoré tout cela. Et si on saute en avant, une fois que Nortel a été démantelé, le campus de Nortel a été vendu à la Défense nationale. Et lorsqu'on a rénové le campus pour pouvoir l'adapter aux besoins de la Défense, on a trouvé en plus des micros et des appareils d'écoute électronique dans les murs qui avaient été placés dans les laboratoires où les gens de Nortel et de Huawei travaillaient ensemble. Alors, à quelque part, on voit bien qu'il y avait définitivement des tentatives et des réussites de fuite d'informations, de fuite de propriété intellectuelle. Et on estime aujourd'hui, à l'heure actuelle, aux États-Unis, qu'on perd en moyenne entre 200 à 600 milliards de dollars par année. Au Canada, on estime qu'on perd entre 100 à 300 milliards par année. Qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus important si on fait toute proportion gardée.
Michel, tu évoques le cas de Nortel, qui était une compagnie privée, une compagnie publique cotée en bourse, là. Mais, je veux dire, c'était une compagnie qui ne dépendait pas du gouvernement. Elle pouvait bien faire ce qu'il voulait avec l'information que nos espions lui refilaient. Mais dans le cas de l'Agence spatiale canadienne, c'est une société fédérale. Je veux dire, c'est quand même surprenant qu'ils aient pas allumé avant ça.
Oui, et c'est un peu le symptôme auquel je faisais référence au tout début, c'est que trop souvent, on néglige, on n'est pas suffisamment sensibilisé. Et ça fait partie du rôle du gouvernement, ça fait partie du rôle du SCRS que de sensibiliser. Malheureusement, le SCRS s'est fait un petit peu émasculer il y a quelques années passées par le comité de surveillance des activités de renseignement qui, dans sa grande sagesse omnipotente, a décidé de dire que le SCRS, c'était pas sa job de renseigner les ministères, c'était pas sa job de renseigner le secteur privé. Eux autres, il fallait simplement qu'ils donnent l'information à la tête du gouvernement, et c'est le gouvernement qui avait décidé de faire qu'est-ce qu'il voulait avec cette information-là. C'est une grave erreur, très grave erreur. Si on regarde nos alliés, que ce soit le FBI, que ce soit le MI5 en Angleterre ou d'autres de nos alliés, tout le monde parle avec les grands leaders des entreprises ou des divers ministères pour donner justement ces éléments de sensibilisation et d'avertissement. Mais ici, on le fait pas. Et donc, c'est la vieille maxime, je ne vois pas de diable, je ne parle pas de diable. I see no evil, speak no evil.
Michel, je t'amène sur un autre terrain complètement, tandis que j'ai un ancien espion au bout du fil. J'ai beaucoup lu sur la Russie, l'Ukraine. J'ai toujours été fasciné d'abord par l'URSS quand j'étais plus jeune. Là, moi, j'ai grandi avec la guerre froide, avec toutes les histoires de KGB, etc. Je trouvais ça fascinant. Là, je lisais en fin de semaine un livre sur Poutine. J'ai été surpris d'apprendre que c'était pas un grand espion. C'était-tu connu, ça?
Non. Non, c'était pas un espion de très haut calibre du tout, même qu'il avait été recalé pour ne pas travailler à l'étranger. Le KGB avait deux grandes divisions, là, ni plus ni moins. Ceux qui travaillaient à l'étranger et ceux qui travaillaient en Union soviétique comme telle. Et lui avait été gardé à travailler dans le bloc soviétique. On n'allait pas l'envoyer à l'étranger. Dans les opérations spéciales, ce qu'on appelait les opérations d'illégaux. Parce qu'il était trop médiocre, il n'était pas bon, il n'avait pas un bon jugement, il n'avait pas cette capacité. Cela dit, il a quand même été capable de prendre une certaine expérience, et à l'effondrement du bloc soviétique, ben, il s'est ramassé à Saint-Pétersbourg, où il a commencé sa carrière politique. Il s'est rapproché de Yeltsin. On s'en souviendra, Yeltsin, à l'époque, qui a fait la transition après Gorbatchev, ben, c'était un alcoolique invétéré. Alors, ni plus ni moins, l'autre a pu prendre sa place et tranquillement positionner. Parce que ça, il savait comment le faire, et on lui avait appris à vraiment bien positionner ses pions, de mettre le monde qui allait lui être loyal. Et éventuellement, il a pu prendre le pouvoir et garder le pouvoir. Et une fois qu'il a eu le pouvoir, ben, il a pu l'asseoir comme il faut. C'est un adulte, c'est un étudiant de Staline, alors ça, il l'a bien appris.
Comment, tu regardes ça de loin, évidemment, là, puis tu ne l'as pas connu, Poutine, mais comment est-ce que la mentalité du KGB, qui était une police secrète sous l'Union soviétique, comment est-ce que ça éclaire, ça informe sa façon d'exercer le pouvoir aujourd'hui?
Ben, ultimement, pour le KGB, la meilleure façon de pouvoir régner, c'était de semer le chaos chez les opposants. Alors, si on arrive à semer le chaos, c'est excellent, c'est parfait, c'est la meilleure façon de pouvoir corrompre et d'acheter du monde à gauche et à droite, de toutes sortes de manières. Et ça, il l'avait bien appris. Et en utilisant en plus ses pouvoirs, ben, on sait entre autres que au lendemain de l'effondrement du bloc soviétique, le KGB, qui a été dissous, avait littéralement des milliards de dollars à sa disposition. Et ces milliards de dollars-là ont été distribués à gauche et à droite pour fonder diverses organisations criminelles. Et c'est là où les organisations criminelles russes ont vraiment pris leur essor à l'international. Et c'est avec cet argent du KGB. Et Poutine était au courant de tout cela. Il a été mêlé intrinsèquement à tout cela. Et ça lui a bien servi. Maintenant, les oligarques qui sont maintenant en poste, ben, lui renvoient l'ascenseur, en quelque sorte.
Comme spécialiste du renseignement, qu'est-ce qui te frappe sur tout ce qu'on sait de ce conflit-là?
Ben, ce qui est décevant et ce qui fait mal, à quelque part, c'est à savoir comment la CIA avait réussi à quand même installer beaucoup d'informateurs, de sources, très près de Poutine. D'ailleurs, on doit à Trump, durant sa présidence, d'avoir brûlé l'une des sources les plus importantes de la CIA, qui en le nommant quasiment publiquement.
Ah oui?
Alors, cet homme-là a dû quitter rapidement, et ça, c'est grâce à Poutine. Dans d'autres circonstances, ce bonhomme-là aurait dû être amené en cour comme traître, mais bon, on connaît la suite avec Poutine. Mais ce qui est déplorable, c'est jusqu'à quel point, pour des raisons politiques et des dissensions au sein du bloc de l'Ouest, qu'on a manqué tous les signaux qui étaient envoyés par Poutine. On l'a vu se préparer depuis très longtemps. Il a fait ça, il a fait un essai, même il a tenté le diable en allant en Syrie, en allant en Crimée, en allant en Géorgie, en forçant à gauche et à droite son expansion. On le voyait là, il se préparait, il voulait tenter jusqu'à quel point il pouvait pousser son agenda sans que personne ne résiste, et personne n'a résisté réellement à cause justement de cette dissension. On vient d'apprendre là justement que pendant qu'il y avait des sanctions contre la Russie, la France a continué de vendre des armements à la Russie, armements qui sont utilisés à l'heure actuelle sur leurs tanks contre les Ukrainiens. Alors c'est cet égrènement là constant qu'il existe entre les joueurs des joueurs internationaux qui vont dire publiquement une chose, mais qui vont parler, qui vont faire autre chose dès que tu as le dos tourné.
Toujours un plaisir de te parler, Michel.
Toujours un plaisir aussi. Merci, Bertel.
À la prochaine. Salut. C'était Michel Junot-Catuya, ancien du SCRS.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Largue peu à peu les mesures sanitaires. Là, on est vraiment en retour vers la normalité. Le masque va bientôt être chose du passé. On peut aller au restaurant, on peut aller voir des spectacles, etc., etc. Le virus a quand même sa propre logique et Chine, Hong Kong, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, en Europe, ben les cas sont en train de monter. On va faire le point avec Dr. André Veillette, chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Dr. Veillette, salut!
Bonjour, M. Lagacé.
Est-ce que ça vous inquiète, là, ce qu'on voit un peu partout dans le monde?
Ah, c'est certain. Je pense que c'est inquiétant, même si c'est pas la première fois qu'on vit ça. Je pense que chaque fois que ça survient, évidemment, c'est inquiétant parce qu'on sait que quand ça monte, on sait jamais quand ça va arrêter. Et puis que ça va être suivi par des hospitalisations, puis des décès, puis qu'il y a des gens qui vont attraper la longue COVID. Alors, c'est troublant. Puis il y a des chances raisonnables que la même chose survienne ici. On sait qu'on a tendance à être 3 à 4 semaines après l'Europe. On a un profil assez similaire au point de vue vaccination, au point de vue mesures sociales d'isolation, là, comparé à des pays d'Europe. Alors, c'est fort possible qu'on vive la même chose qu'eux d'ici 3 à 4 semaines. Alors oui, c'est troublant.
Qu'est-ce qui vous inquiète le plus quand vous regardez les données?
Les données sont inquiétantes, mais d'après ce qu'on peut voir, ce qui se passe dans les pays d'Europe, il augmente pas à toute vitesse. C'est inquiétant, mais un peu moins à cause de ça. Il semble que la montée est assez lente. C'est pas la même montée qu'on avait vue avec Omicron au début du mois de janvier. Mais par contre, c'est beaucoup plus fulgurant, par exemple, si on regarde dans des endroits comme la Nouvelle-Zélande, où ça monte littéralement en flèche. Il y a aussi la Corée, où ça monte très, très vite. Alors, il y a différents types de patrons. Faudra voir quelle sorte de patron on a ici. Peut-être que ça va être juste une petite montée, une petite vaguelette, que les gens vont être très sages, ils vont courir aller chercher leur troisième dose, puis ils vont porter leur masque, même si c'est pas obligatoire dans des milieux où c'est à risque. Et puis on aura peut-être le beau temps qui va arriver à un moment donné, d'ici quelques semaines. Ça fait que peut-être que ça va pas monter beaucoup. Mais on sait pas vraiment. C'est inconnu. Alors, on est toujours dans l'inconnu parce que, comme vous dites, c'est le virus qui est en charge, c'est lui qui décide. Puis il n'y a aucune logique. Fait que on ne sait jamais ce qui va arriver.
Dr. Veillette, parlons un peu de la Nouvelle-Zélande. On sait qu'au début de la pandémie, même pendant, au plus fort de la pandémie, la Nouvelle-Zélande était montrée en exemple parce que c'était une sorte de forteresse. Eux, leur objectif, c'était COVID zéro. Personne ne devrait avoir la COVID. Là, il semble qu'il y a vraiment une flambée qui est surprenante là-bas. Et une des théories, dites-moi ce que vous en pensez, vous l'avez sûrement entendu, c'est que oui, ils sont vaccinés, mais ils ont tellement été COVID zéro qu'il n'y a pas d'immunité naturelle. Est-ce que ça peut jouer?
Oh, ça me surprendrait, ça. Je pense qu'une fois que les gens sont vaccinés, là, surtout avec 3 doses, je pense que la protection est plus ou moins la même. c'est pas un peu meilleur que si les gens ont été infectés une fois puis ont eu deux vaccins. Alors, c'est possible, je pense qu'on ne le saura jamais. C'est plutôt, je pense, des raisons là, du virus. Là. Le virus a ces cycles-là, on n'a jamais compris trop pourquoi. À un moment donné, ça monte, à un moment donné, ça descend, puis c'est synchronisé dans différents pays. Puis là, bon, il y a l'Angleterre, la France, les pays d'Europe qui ont une synchronisation particulière. Puis là, il semble que la Nouvelle-Zélande, l'Australie, peut-être aussi Hong Kong, Corée, peut-être même la Chine, on ne sait pas trop, qui ont aussi leur propre système synchronisé. Il y a toutes sortes de choses qu'on connaît pas vraiment. Alors, c'est possible qu'il y ait des explications qu'on ne connaît pas vraiment pour ce qui se passe en Nouvelle-Zélande.
OK, revenons au Québec. Quand vous regardez les données, il y a encore des données, ça retient moins l'attention. Là. On a beaucoup, on focalise beaucoup sur l'Ukraine. Les hôpitaux semblent s'être, disons, les hôpitaux ne sont pas en danger au Québec présentement.
Non.
Quelle lecture vous faites des données?
Ben moi, je pense que là, c'est comme ça continue à diminuer, mais ça diminue pas vite. Ça a l'air de s'orienter vers un plateau. Ça, c'est au niveau des hospitalisations. Je pense que le nombre de cas la semaine dernière, on estimait que c'était autour de 15 000. C'est probablement un peu moins présentement. Puis je pense que ce qu'il va falloir voir, c'est ce qui se passe d'ici 2-3 semaines, si ça se met à monter. Encore là, j'ai l'impression que ça va pas monter en flèche, mais bon, j'ai déjà eu tort, alors c'est peut-être que ça va monter en flèche, mais j'ai l'impression que ça va monter un peu comme on voit en Angleterre ou en France, là, où ça va monter lentement. Lentement, mais sûrement, parce qu'il y a quand même des hospitalisations qui résultent de cette montée-là, et puis il y a des gens, évidemment, qui souffrent.
Mais la capacité hospitalière, je me trompe pas là, je veux dire, on a de l'espace là.
Apparemment oui. Alors apparemment on a de l'espace. J'aime pas ça trop comme argument, dire bon on a de l'espace pour les malades, donc allons-y, let's go. Je pense que tu sais, il y a des gens qui vont pas nécessairement être à l'hôpital puis qui vont être malades, qui vont développer la longue COVID. Puis Dieu sait quoi d'autre. Là, je pense qu'il y a de plus en plus d'évidence qu'il y a des gens qui vont avoir des problèmes d'embolie, de thrombose, d'AVC. Puis ça, il semble qu'il y a une espèce de maladie des vaisseaux aussi qui peut être causée par ce virus-là. Puis ça apparaît seulement quelques semaines plus tard, après l'infection, une fois que l'infection est partie. Alors, je pense que oui, le système hospitalier peut en prendre, mais je pense que si on peut aussi éviter que des gens aient des complications, même sans hospitalisation, ça aussi, je pense que ça serait bon. Alors, j'aime pas que ça monte, le point final, je pense, c'est juste ça.
Je vous suis sur Twitter, Dr Veillette, puis je sens chez vous un scepticisme là, par rapport, disons, à la vitesse assez importante avec laquelle le Québec a largué la plupart des mesures, particulièrement sur le masque.
Oui, le masque. Alors, je pense qu'il y a deux mesures vraiment là, fondamentales qui aident à prévenir la COVID puis à diminuer la sévérité de la maladie si jamais on l'attrape. C'est le vaccin. Bon, ça ici, on a été bon pour nos deux premières doses. La troisième dose, je pense, ça a été beaucoup plus mitigé comme succès. On a juste 50% des gens qui sont allés chercher leur troisième dose. Mais la deuxième mesure qui est vraiment très importante, c'est les masques. Alors, les masques, là, si finalement on n'a pas le virus parce qu'il rentre pas dans nos voies respiratoires, bon, on sera pas infecté. Alors, de porter un bon masque, les N95, c'est des masques supérieurs, dans des endroits à risque, là, des endroits lorsqu'il y a beaucoup de cas, comme présentement, où il y a des gens qu'on connaît pas, où c'est mal ventilé. Alors, je pense que ça peut aider énormément. Puis, je pense que la santé publique nous a dit que ça va être à nous d'évaluer nos risques et puis de décider quand on va porter le masque ou non. Je pense que présentement, ça serait bon, même s'il y a une levée d'obligation de porter du masque dans certains milieux. Je pense que ça serait pas une mauvaise idée pendant un petit bout de temps de les garder, même si la règle est que t'es plus obligé, ça veut pas dire qu'ils sont pas utiles.
Vous continuez à le porter.
Ah, c'est certain. Moi, je continue à le porter. À mon travail, on continue à le porter. On a pris une décision de groupe parce qu'il y a des gens qui ont des parents âgés dans notre groupe. Alors, on a décidé qu'on allait tout simplement le faire. Et puis, bon, on verra ce qui va arriver. Je pense qu'on attend que les cas baissent dans la communauté avant des enlever. C'est sûr que ça va être une grande célébration quand on va tous pouvoir enlever les masques, mais en même temps, faut pas causer des gens qui vont devenir malades puis causer des complications chez des gens qui sont vulnérables. Puis il y en a des gens vulnérables dans la société. Alors je pense qu'on a un peu aussi une responsabilité civique, une responsabilité collégiale là, de protéger les autres, même si nous on se sent invincible. Peut-être qu'il y a d'autres gens autour de nous qui le sont pas.
Et de pas se moquer de ceux qui choisissent de le porter. Il y a bien des gens qui ont leur raison aussi, là.
Tout à fait, tout à fait. Puis je veux dire, il faut respecter les raisons des gens. Alors, il y a des gens qui ont vraiment une phobie des infections. Bon, il faut respecter ça. Mmh. Il y a des gens qui ont des parents qui sont malades, qui ont des parents qui sont âgés. Je pense qu'il faut respecter ça. Il y a des gens qui sont immunocompromis. Il faut respecter ça. Puis il y a des gens qui ont juste pas envie d'être malades parce que c'est pas un bon temps pour eux d'être malades. Puis qui veulent pas attraper le virus parce qu'ils ont une peur qui est raisonnable, tout à fait raisonnable, d'attraper la long COVID si jamais ils sont infectés. Alors je pense qu'il faut respecter ce que les gens veulent faire. Puis en même temps, faut pas non plus être brave puis faire exprès pour enlever le masque et pour rendre les gens inconfortables autour de nous. Alors j'espère qu'on va voir beaucoup de civisme dans la société, dans le contexte de cette levée obligatoire du masque, surtout quand il y a encore du virus puis qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise.
Merci pour le rappel, Dr. Veillette. Je souhaite une bonne soirée.
C'est moi qui vous remercie.
Salut, à la prochaine.
Bye.
Dr. André Veillette, chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.